Apocalypse, chapitre 16 et verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, on veut poursuivre notre méditation sur le thème « Revêtu de sa justice ». Revêtu de la justice de Dieu. Et vous vous rappellerez, si vous avez suivi depuis le début, qu'on a méthodiquement analysé et examiné la parole de Dieu pour comprendre ce sujet dans toute son ampleur. Et on a vu, comme dans l'expérience d'Ésaïe, dans sa vision de Dieu sur son trône, et dans la parabole prophétique du sacrificateur Josué, qui se tenait devant l'ange de l'Éternel, dans Zacharie, chapitre 3, que l'amour de Dieu, l'amour puissant de Dieu et profond dans son cœur, c'est que si nous venons à lui avec le sens, avec le sentiment sincère de nos péchés qui ont brisé le Fils de Dieu, Jésus, eh bien, si nous venons à lui comme cela, contrit et brisé à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, ce qui se passe, c'est que il fait pour nous ce qu'il a fait pour Ésaïe et ce qu'il a fait aussi pour Josué dans la parabole prophétique de Zacharie. C'est qu'il nous dit, vois, j'enlève ton iniquité, tes vêtements sales, je touche tes lèvres d'un charbon ardent et j'ôte ton péché. Et comme nous avions vu la dernière fois dans Romains chapitre 5, il ôte notre péché de telle sorte qu'il puisse être reconnu comme étant juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et celui qui a la foi en Jésus, il a la même foi que Jésus lui-même avait quand il priait au Père, « Seigneur, délivre-moi de ma détresse. » Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Oh mon Père, si c'était possible. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Celui qui a la foi en Jésus, de cette manière, a la foi de Jésus. Et à travers cette foi de Jésus qui regarde à Dieu, à Jésus-Christ, comme le médiateur entre Dieu et l'homme, de la même manière que Jésus est regardé au Père, pour le sauver, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 5, car il a souffert, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et il est devenu l'auteur du salut pour tous ceux qui croient en lui. Et donc maintenant, si nous avons cette foi en lui, et cette foi que lui-même avait, eh bien, nous passons à travers la justification dans une activité continue où Dieu nous appelle, comme nous l'avions lu dans Éphésiens chapitre 4, verset 22, où Dieu nous appelle à nous dépouiller de notre conduite précédente, du vieil homme, et à nous revêtir du nouvel homme, qui est créé en Dieu. Et nous avons vu dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous y marchions. Donc toutes ces choses, nous avons vu sont reliées, intimement reliées les unes aux autres pour nous exprimer de manière concrète qu'est-ce que cela veut dire pour nous de nous revêtir de la justice de Dieu. Et l'apôtre, il disait dans Romains chapitre 13, rafraîchissons-nous la mémoire, dans Romains chapitre 13, il disait tout cela, il disait que nous devons accomplir la loi, comme nous avions lu, la loi n'a pas été abolie, elle a été établie par la loi de la foi, et donc la loi n'est pas abolie par la foi, mais Dieu a établi la loi de Dieu à travers cette activité de la justification par la foi. Et donc, quand nous sommes justifiés parce que Dieu a sacrifié Jésus pour nous, eh bien, nous sommes aussi appelés à entrer dans une œuvre de coopération où Dieu va nous sanctifier à travers notre propre coopération avec lui. Et ici, l'apôtre, il disait dans Romains chapitre 13, verset 12, « Et vous devez faire cela vu le temps où nous sommes, car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Imaginez-vous un peu que l'apôtre, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il disait, le salut, il est maintenant plus proche de nous, et le salut est proche de nous. Il y a 2000 ans, il disait, le salut est proche de nous, et nous devrions nous adonner à cette activité de la sanctification, vu le temps où nous sommes. Et maintenant, aujourd'hui, approximativement 2000 ans plus tard, ces paroles reviennent à aux oreilles de notre entendement et Dieu dit, et vous devez faire cela vu le temps où nous sommes. Vu le temps où nous sommes. Quel est le temps où nous sommes ? Aujourd'hui. Et sans plus tarder, j'aimerais lire dans le commentaire biblique à la page 1814. Le commentaire biblique, page 1814, nous avons cette brève explication du temps où nous sommes aujourd'hui. Mais quand cela a été écrit, Ellen White, sous l'inspiration de l'esprit de prophétie, dans la Review and Herald du 8 novembre 1892, elle parlait ici de son temps. Et donc, j'aimerais susciter votre réflexion très attentive en lisant ces paroles qu'elle a écrites en 1892. Je lis. Le jour d'épreuve et de purification est sur nous. Des signes alarmants apparaissent sous forme d'inondations, d'ouragans, de tornades, de violentes averses, de désastres sur terre et sur mer, tous proclamant la fin imminente de toute chose. Les jugements de Dieu tombent sur le monde afin que les hommes puissent se réveiller au fait que Christ viendra très bientôt. Est-ce que vous avez noté chaque aspect de cette déclaration ? Elle dit, le jour d'épreuve et de purification est sur nous. Sur nous. Nous, ici, c'est elle et tous les adventistes qu'elle comprenait dans ce « nous » en 1892. Elle parle ici au peuple de Dieu dans la revue Review and Herald qui était destinée prioritairement aux croyants au message des trois anges. Et elle dit « Le jour d'épreuve et de purification est sur nous » en 1892. Nous sommes aujourd'hui en 2019. En 2019. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu la lourdeur de sens de ces paroles maintenant? Elle disait en 1892, des signes alarmants, apparaissent sous forme d'inondations, d'ouragans, de tornades, de violentes averses, de désastres sur terre et sur mer, tous proclamant la fin imminente de toutes choses. Est-ce que nous voyons des signes alarmants qui proclament la fin imminente de toutes choses aujourd'hui, dans cette période avancée du 21e siècle? Vous voyez que maintenant la fin n'est même plus imminente, elle est, nous la touchons du doigt. Nous la touchons du doigt. Et comme l'apôtre a dit, et vous devez faire cela, cet appel à la coopération, vu le temps où nous sommes. Cet appel à se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, en ne flattant point la chair dans ses convoitises. C'est important qu'on fasse le lien biblique et inspiré entre les signes qui proclament la fin de toutes choses et l'appel de Dieu à notre sanctification et coopération. Ces choses, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous avons lu? Les jugements de Dieu tombent sur le monde afin que les hommes puissent se réveiller au fait que Christ viendra très bientôt. Pourquoi les jugements de Dieu tombent sur le monde? Pour réveiller, pour nous réveiller à ce fait, cette réalité que Jésus est sur le point de quitter le sanctuaire. Et donc, est-ce qu'il va quitter le sanctuaire avant que je sois prêt? La réponse, c'est que il nous exhorte à hâter son retour. Mais les jugements de Dieu vont continuer pour nous réveiller. Et il est temps que nous soyons réveillés et que nous restions réveillés pour écouter très attentivement les exhortations de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie pour nous aujourd'hui sur qui les fins du monde sont venues. Et nous sommes aujourd'hui au jour où les signes alarmants proclame la fin imminente de toute chose. Et on veut élargir cela dans Apocalypse chapitre 16. Le passage que nous avions pris pour notre lecture biblique est maintenant lire de manière plus large parce que nous avons lu cet appel, cette parole, cette déclaration de Jésus, le témoin fidèle et véritable, dans Apocalypse 16, verset 15, c'est ce que nous avons lu. « Heureux celui qui veille. » Il dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mais il dit cela dans le contexte de la sixième plaie. Et donc c'est cela qu'on veut lire pour comprendre à quoi fait-il référence et en quoi cette exhortation est liée aux signes alarmants des derniers jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Si vous lisez au verset 12, ici nous sommes dans la lecture de la suite des sept dernières plaies qui vont venir affliger le monde avant et en, pour annoncer le retour de Jésus-Christ sur cette terre. Et à la sixième plaie, nous lisons le sixième ange, verset 12, « Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. » À quoi est-ce que cela fait-il allusion ici? Le tarissement du fleuve de l'Euphrate, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Si vous regardez très attentivement le cours de l'Euphrate, vous le verrez partir des montagnes de la Turquie et descendre à travers les nations arabes pour se déverser dans la mer. Le tarissement, l'assèchement du fleuve de l'Euphrate représente une réalité qui est exprimée en très peu de mots dans Daniel chapitre 11, verset 45. Cela fait allusion au tarissement de la puissance politique et militaire d'une coalition de nations arabes qui se seront rassemblés pour accomplir les premières déclarations du passage de Daniel chapitre 11 verset 45. Lorsque le califat rétabli aura placé les tabernacles de son gouvernement dans la montagne sainte et glorieuse, à savoir Jérusalem. Et après cela, la sixième plaie nous déclare que il y aurait un tarissement de cette nouvelle coalition qui se serait rapidement rassemblée pour pouvoir accomplir cela et détruire Israël, que les Arabes ont tous en horreur. Après cette activité de rassemblement, d'attaque et d'un changement de position du quartier général, du gouvernement, de cette nouvelle coalition qui serait un califat rétabli de l'ancien empire ottoman, nous lisons que ce fleuve de l'Euphrate, cette grande puissance mergée et combinée, viendrait à sécher. Son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Qui sont les rois de l'Orient? Ces grandes puissances de l'Est, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, et toutes ces nations puissantes qui ne font pas partie de l'axe des États-Unis. Et nous lisons verset 13, « Et je vis sortir, à la suite de ces événements, et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Ici, que l'apôtre Jean voit en vision, c'est une préparation qui vient culminer à cette activité de la sixième plaie où il voit à la fois le dragon, c'est-à-dire le paganisme, dans toute son envergure dans le monde et sa puissance à travers le spiritisme, à la fois la bête, c'est-à-dire la papauté, l'Église catholique romaine, et à la fois le faux prophète que nous connaissons comme étant le protestantisme apostat dans les États-Unis d'Amérique. Tous ces trois activités, ces trois entités sont vues comme crachant de leur bouche des esprits immondes semblables à des grenouilles. Et ces esprits qui sortent de ces trois entités, le dragon, la bête et le faux prophète, font des prodiges et vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et verset 16, et on les rassembla. Ça, c'est l'activité culminatrice de la sixième plaie. On les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Armageddon n'est pas une guerre spirituelle, c'est une guerre littérale, militaire, où toutes les nations de la terre se verront rassemblées pour se faire la guerre. Et à la vue et en vue d'un tel cataclysme de nations, à la vue d'un tel conflit international et sans répit jusqu'à une destruction monumentale des nations de ce monde, Jésus dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc maintenant nous comprenons le contexte de cet appel de Jésus, car il nous dit qu'il vient comme un voleur et donc que nous avons un besoin extrêmement grand de veiller tout ce que cela implique, comme nous allons le voir, et de garder nos vêtements, afin que nous ne marchions pas nus et qu'on ne voit pas notre honte. Il y a tout un univers de connotations bibliques dans cette déclaration de Jésus ici, dont nous n'allons que toucher certains points qui sont toutefois fondamentaux pour notre préparation vis-à-vis de ce que Jésus vient de dire ici et qu'il nous dit maintenant. Et simplement pour élargir cela, j'aimerais lire une autre déclaration de l'Esprit de prophétie dans la Review and Herald du 27 novembre 1900 au paragraphe 12. Jésus dit, voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Elle vient de citer ici ce que nous venons de lire dans Apocalypse 16, verset 15. Elle continue. Voici le grand poids que chacun doit porter. Mes péchés sont-ils pardonnés? Christ, celui qui porte les péchés, a-t-il ôté ma culpabilité? Ai-je un cœur pur, purifié par la justice de Jésus-Christ? Malheur à l'âme qui ne cherche pas un refuge en Christ, Malheur à tous ceux qui détourneront maintenant, de quelque manière que ce soit, l'esprit de l'œuvre et entraîneront les âmes à être moins vigilantes. L'esprit de prophétie vient ici de développer ce qu'il veut, ce que Jésus veut dire ici dans son appel à notre vigilance, où il dit « Heureux celui qui veille ». Qu'est-ce que c'est ? Quel est le grand poids que chacun de nous doit porter en rapport avec ces paroles-là ? Mes péchés sont-ils pardonnés ? Donc en d'autres termes, est-ce que je suis rentré ? Est-ce que je suis maintenu ? Est-ce que je suis encore dans l'expérience de la justification par l'amour profond et puissant de Dieu pour moi en Jésus-Christ. Est-ce que mes péchés sont pardonnés? Est-ce que j'ai cette assurance que j'ai reçu cette merveilleuse bénédiction du sentiment d'être justifié à Dieu et ainsi d'avoir reçu la paix avec Dieu? Est-ce que mes péchés sont pardonnés? Et pas seulement cela, mais elle continue. Christ, celui qui porte les péchés, a-t-il ôté ma culpabilité? Est-ce que mon sens de culpabilité, mon sentiment de la culpabilité due à ma transgression de la loi de Dieu, à ma désobéissance, est-ce que Jésus, il a ôté cette culpabilité? Est-ce que j'ai manifesté la foi en Dieu et en Jésus par laquelle je sais qu'il ôte ma culpabilité? De la même manière qu'il l'a fait pour Ésaïe, en touchant ses lèvres, et pour Josué, dans la parabole, en lui disant, « Vois, j'enlève ton iniquité. » Et troisième question, ai-je un cœur pur? Ai-je un cœur pur, purifié par la justice de Jésus-Christ? Et là, c'est à deux tranchants, parce que pour avoir un cœur pur, Dieu accomplit cela dans la justification, mais ça ne peut être opéré et accompli pleinement qu'à travers la sanctification et le salut total à travers Jésus-Christ. Donc ce sont là les questions qui sont suscitées par cet appel et cette déclaration de Jésus à veiller et à garder nos vêtements en vue des choses qui vont apparaître et qui vont se produire dans le monde. Et donc malheur à nous si maintenant, en ce moment-là, ce moment fatidique, à ce moment terminal, nous nous mettions à détourner les esprits de l'œuvre, de cette œuvre de préparation et de purification, et à entraîner les âmes à être moins vigilantes en ce moment même où il faut faire preuve de toute la vigilance possible et nécessaire. Malheur à tous ceux qui détourneront maintenant, de quelque manière que ce soit, l'esprit de l'œuvre. Pas l'esprit de l'œuvre de l'évangélisation, de détourner l'œuvre de l'esprit de coopération avec Dieu pour être purifié comme ça. L'évangélisation, elle va se gérer toute seule si nous nous concentrons sur cet appel à écouter attentivement tout ce que Jésus me dit à travers la parole et l'esprit de prophétie pour opérer cette transformation de caractère là. Et toutes ces choses-là que nous venons de lire, elles sont directement reliées à la parabole des noces que nous trouvons dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent point venir. Et ensuite, nous sautons cette partie et il explique l'excuse que chacun a donnée. Verset 8, « Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Et ses serviteurs étant allés dans les chemins rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, en sorte que la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Donc au départ, Dieu a convié au mariage, aux noces de son fils, ceux qui étaient la nation juive, qui étaient directement reliés de parenté avec Jésus-Christ. Il les a conviés parce qu'ils étaient le peuple de Dieu, l'église que Dieu s'était rassemblée à lui, mais bien que les noces étaient prêtes, ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Ils ont refusé, ils ne voulaient pas de l'humble et doux Jésus, de celui dont il était prophétisé dans Ésaïe chapitre 53. Et donc, Dieu a invité les gentils aux noces de l'agneau. Et ensuite, comme nous venons de le lire, la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Verset 11. Et le roi étant entré pour voir ce qui était à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-le pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc ça, c'est la parabole qui est directement reliée avec tout ce sujet d'être revêtu de Jésus-Christ, revêtu de sa justice. Et je l'ai lu pour poser les fondements, mais ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est les déclarations de l'esprit de prophétie où elle développe directement le sens de cette parabole. Je lis dans Parabole de Jésus à la page 267 au paragraphe 1. La parabole des noces nous apporte une leçon extrêmement importante. Le mariage représente l'union de la divinité avec l'humanité, tandis que l'habit de noces symbolise le caractère que doivent posséder tous ceux qui seront dignes de prendre part à cette fête. Donc quoi ? Ceux qui seront dignes de prendre part à ces noces auront l'habit de noces, le caractère nécessaire pour y être admis. Il y avait un passage que je n'ai pas lu, mais que je voulais lire avant qu'on lise cela. Nous allons nous y tourner maintenant dans Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse 19 et versets 7 à 9. Parce que nous avons lu qu'en ces moments même où Jésus dit qu'il vient comme un voleur, que nous sommes appelés à veiller à garder nos vêtements. Et donc, quels sont ces vêtements? Quel est cet habit de noces dont il est, au sujet duquel nous venons de lire ici, là, dans cette première citation? Je lis. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Alors l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas une parabole. Ce n'est pas une parabole. Il faut être vêtu des habits de noces. C'est sérieux. Et donc, il a été donné à l'Église d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Et pour élargir cela, ce qu'on veut faire, c'est continuer notre lecture de parabole de Jésus à la page 269, paragraphe 4 et suivant. L'examen des invités par le roi symbolise l'œuvre du jugement. Les convives du banquet évangéliques sont ceux qui professent servir Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est les personnes qui sont invitées à ce banquet, qui est le banquet des noces du Fils, et que nous avons lu ici, est le banquet des noces de l'agneau? Les convives du banquet évangélique sont ceux qui professent servir Dieu, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Dans le livre de vie sont inscrits tous ceux qui professent servir Dieu, tous ceux qui professent le nom de Jésus-Christ, professent lui appartenir. Et donc tous ceux qui sont à ce banquet, qui sont présents à ce banquet et qui sont là pour être examinés par le roi, ce sont ceux qui professent servir Dieu. Mais tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas de vrais disciples de Christ. Donc, ils sont tous là, ils professent tous servir Dieu, appartenir à Christ. Mais nous venons de lire là que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas de vrais disciples de Christ. Tous ne sont pas nécessairement de vrais disciples de Christ. Mais parce qu'ils se professent lui appartenir, Dieu les reçoit dans la salle pour les examiner. Je continue. Avant que la récompense finale soit donnée, il faut savoir qui aura part à l'héritage des justes. Donc c'est très important. Dieu est en train ici de déterminer, à travers cette œuvre du jugement, qui aura part à l'héritage des justes. Cette décision doit être prise avant le retour de Jésus sur les nuées des cieux. Et donc il dit, nous venons de lire dans la sixième plaie, la sixième plaie, juste avant la septième, après quoi Jésus revient, dans le contexte de la sixième plaie, Jésus il dit, toutes ces choses vont arriver, ces cataclysmes, ces ouragans, ces tornades, et en plus de ça, l'Armageddon, dans lesquels les nations vont se faire la guerre, ils vont tous se retrouver nus, et tout le monde va voir leur honte en vue de toutes ces choses-là. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Cette décision finale de qui aura part à l'héritage des justes, comme nous venons de lire, doit être prise avant le retour de Jésus sur les nuées des cieux, car quand il viendra, sa rétribution sera avec lui pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Elle cite Apocalypse 22, verset 12. Par conséquent, il faut que l'œuvre de chacun ait été manifestée auparavant, avant son retour. Tout disciple de Christ recevra une récompense en rapport avec ses actes. Je continue. C'est très important. Elle dit, l'œuvre du jugement investigatif se prépare au ciel, tandis que les hommes vivent encore sur la terre. La vie de tous ceux qui prétendent servir Dieu passe en revue devant lui. Tous sont examinés d'après ce qui est inscrit dans les livres du ciel, et la destinée de chacun est irrévocablement fixée selon ses actes. Selon ses actes, la destinée de chacun est irrévocablement fixée parce que la vie de chacun de nous qui prétendent servir Dieu est examinée d'après ce qui est inscrit dans les livres du ciel. Donc nous vivons pendant cette œuvre du jugement investigatif depuis 1844. Et ici, cette activité du jugement est directement reliée et mise en parallèle dans sa signification avec l'examen des invités par le roi. Comme c'est écrit ici. C'est la même chose. C'est la même activité de jugement et d'examination. Je continue. L'habit de noces de la parabole, qu'est-ce que c'est ? Représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples de Christ. Donc, ceux qui sont à table et qui sont examinés comme ayant l'habit de noces, qu'est-ce que ça veut dire s'ils ont l'habit de noces, si Dieu les trouve comme étant bien vêtus de manière qui correspond à cet événement glorieux des noces de l'agneau, qu'est-ce que c'est? L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples de Christ. Il a été donné à l'Église de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle vient de citer ici Apocalypse 19:8 et Éphésiens 5:27. Le fin lin, disent les Écritures, ce sont les justices des saints. C'est la justice de Christ, son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Donc qu'est-ce que c'est ces justices des saints qui sont le fin lin, ce symbole qui nous est présenté ici? C'est la justice de Christ, la justice de Christ. Son caractère irréprochable qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Et donc, ça nous dirige, ça nous oriente vers le passage d'Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 19. Parce que nous lisons ici une merveilleuse déclaration, mais que nous sommes en danger de passer complètement au-dessus. Il y a écrit, le fin lin, disent les Écritures, ce sont les justices des saints. Et pour éclaircir cette déclaration, l'esprit de prophétie continue en disant, ce fin lin-là, qu'il porte, que tous les saints portent, qui sont les justices des saints, c'est la justice de Christ. Et qu'est-ce que c'est cette justice de Christ? Son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent, comme leur sauveur personnel. Donc ce fin lin, cet habit de noces que nous, comme croyants au message des trois anges, en ce dernier temps, nous sommes appelés à avoir sur nous, à porter, c'est la justice de Christ, et cette justice de Christ, c'est son caractère irréprochable. Et donc maintenant, la question qui se pose à nous de manière concrète, c'est est-ce que mon caractère a été irréprochable? Est-ce que j'ai manifesté un langage, un vocabulaire irréprochable? Est-ce que j'ai manifesté une attitude envers mon prochain, envers mes frères et sœurs dans l'Église, irréprochable? Et si je n'ai pas ce caractère irréprochable, que ce caractère irréprochable ne m'a pas été communiqué, alors il me manque encore cet habit de noces sans lequel nul ne sera admis au banquet des noces de l'agneau final. Et donc ça suggère quelque chose à notre imagination, à notre réflexion, c'est que si je n'ai pas manifesté cette irréprochabilité de Jésus-Christ, et qu'il me manque des choses, que je vois que le monde a une influence puissante sur mes affections, eh bien, ça dirige directement notre attention vers les paroles de Jésus dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 19. Parce que c'est bien beau de lire que le fin lin, c'est la justice des saints et c'est la justice de Christ, mais il faut savoir comment est-ce que, tel que c'est écrit ici, comment est-ce que cette justice qui est la sienne, qui est son caractère irréprochable, mais communiquée par la foi, comme c'est écrit ici. Il faut que nous sachions, que nous comprenions, que nous puissions saisir de manière concrète comment est-ce que ce caractère que je n'ai pas manifesté peut être le mien, et que le roi puisse, en m'examinant, trouver que j'ai l'habit de noces. Parce que son caractère est irréprochable. Si mon caractère n'est pas irréprochable, je n'ai pas l'habit de noces. Ça ne fonctionne pas en demi-mesure. C'est tout ou rien avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce tout ou rien de la parole de Dieu, qui est partout dans la parole de Dieu, ça vient susciter une interrogation profonde de qui dit à l'intérieur de moi, Seigneur, tu vas venir très bientôt. Toutes ces choses sont en train de se développer à travers le monde, ces situations de crise, ces nations qui se font la guerre, et tout cela parle à mon esprit en écho à ta parole que je ne suis pas encore prêt, mais que tu viens de manière imminente. Et donc le Seigneur veut faire bouillir nos cœurs à l'intérieur de nous et il nous déclare les paroles à Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Vous connaissez le message, il parle à l'ange de l'église de Laodicée. Il parle directement au ministère de cette église. Et il leur dit, et attention, parce que se peut-il qu'il le dise aussi à nous, quel est l'esprit dont je suis animé? Ne pointons pas simplement le doigt, mais puissions-nous discerner là où nous sommes en tort et où le gant est à la forme de la main. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies, je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et te repens. Voilà son appel. Voilà l'appel de Jésus à nous qui avons fait preuve de suffisance, qui avons dit en nos cœurs, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Oh, mais je sais tellement de choses maintenant. Oh. Non. Il dit, tu ne sais pas. Tu ne connais pas, tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, nu, sans rien sur toi, que des habits rapiécés, des vêtements souillés. Et donc, il nous conseille, il dit, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Il nous conseille, il dit, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, un fin lin pur et éclatant pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Vous voyez comment cela est extrêmement relié, indissociable. Vous ne pouvez pas le séparer. C'est indissociable. L'appel de Jésus à Laodicée et son avertissement vis-à-vis d'Armageddon. Armageddon, c'est une guerre entre les nations. Et est-ce que j'ai un esprit de guerre avec les frères et sœurs? Est-ce que j'ai un esprit de discorde? Un esprit de désunion? Un esprit d'inimitié? Si j'ai cet esprit qui est nourri par les nations, alors je serai précipité dans le feu d'Armageddon. Ce sont les choses sérieuses que le Seigneur place devant nos esprits. mais ne les place pas devant nos esprits pour nous décourager. Il nous dit, je reprends et je châtie tous ceux que je crois, tous ceux que j'aime. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. La mère ou le père qui ne châtie pas son enfant, elle n'aime pas son enfant. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Et donc nous oublions que le vrai amour, il reprend et il châtie parce qu'il aime. Le vrai amour fait cela. Le vrai amour a la verge dans la main et il ne la garde pas pour soi, il ne la range pas, il n'a pas peur de châtier, il n'a pas peur de frapper. Jésus, il dit, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Son amour, il est vrai. Son amour, il est véritable. Son amour, il ne m'épargne pas. L'amour qui est vrai, c'est l'amour qui n'épargne pas. Mais qui reste à l'amour. C'est agapé. L'agapé, il fait cela. Et donc, si nos cœurs se sentent comme serrés à l'intérieur de nous, c'est l'amour qui fait cela. L'amour nous contraint, il est écrit, afin que nous sentions à l'intérieur de nous un empressement pour acheter de lui des vêtements blancs, purs et éclatants, l'habit de noces. Merveilleux, merveilleux conseil du Seigneur Jésus. Directement en rapport avec cela, on veut lire Parabole de Jésus à la page 271 au paragraphe 3. Ces vêtements blancs, quels sont-ils? Directement annoncés ici par l'esprit de prophétie. Je lis. Tissez sur les métiers du ciel cette robe de Jésus, de la justice de Jésus-Christ. Cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse humaine. Dans son humanité, Christ a formé un caractère parfait et c'est ce caractère qu'il offre de nous communiquer. Toutes nos justices sont comme un vêtement souillé, Ésaïe 64:6. Tout ce que nous pouvons faire de nous-mêmes est pollué par le péché. Mais le Fils de Dieu a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Le péché est défini comme la transgression de la loi. Elle vient de citer 1 Jean chapitre 3, verset 5 et verset 4. Mais Christ a été obéissant à toutes les exigences de la loi. Il disait de lui-même, « Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mon cœur. » Lorsque Jésus était sur la terre, il affirmait à ses disciples, « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Jean chapitre 15, verset 10. Par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour tous les hommes l'observation des commandements de Dieu. Et là, il y a un développement très intéressant parce que ça va beaucoup plus profondément que simplement les clichés bibliques. Nous avons une description, un tracé d'une activité pratique dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos affections, qui traduit directement cette activité que nous avons voulu explorer, de nous revêtir de la justice de Christ, de cet habit de noces, du fin lin pur et éclatant, de ces vêtements blancs qu'il nous offre et qu'il nous demande d'acheter de lui. Voilà ce qui est écrit. Quand nous nous soumettons à Christ, notre cœur est uni au sien. Notre volonté se confond avec la sienne. Notre esprit ne fait qu'un avec son esprit. Nos pensées lui sont amenées captives. Nous vivons sa vie. Nous vivons sa vie comment ? Nous vivons sa vie, nous sommes revêtus de sa justice. Comment ? Quand nous nous soumettons à Christ. Vous vous rappellerez ce qu'on a vu au tout départ de notre série de méditations sur cette nécessité d'être revêtu de douceur. Nous avons vu qu'il nous appelle à prendre sur nous son joug qui est facile et aisé. Et ici, c'est cela l'appel quand nous nous soumettons à Christ. Quand nous sommes doux et humbles comme lui l'a été, notre cœur est uni au sien, notre volonté se confond avec sa volonté, notre esprit ne fait qu'un avec son esprit, nos pensées lui sont amenées captives. Nous vivons sa vie. Comme c'est écrit dans Galates 2, chapitre 20, je suis crucifié avec Christ, disait l'apôtre Paul. Et maintenant je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Ça, c'est une activité de complète résignation où nous nous donnons à lui, de complète soumission, de complète abandon. Quand nous nous soumettons à Christ, c'est là que nous pouvons vraiment observer les commandements de Dieu. Et pardon, j'allais oublier, juste après qu'elle ait écrit cela, nous vivons sa vie, elle dit, l'esprit de prophétie dit, voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire concrètement, vraiment concrètement. On est bien au-delà des clichés, des symboles inexpliqués, de manière concrète et pratique. Être revêtu du vêtement de sa justice, c'est nous soumettre, me soumettre à Jésus. Pour que mon cœur soit uni à son cœur, que ma volonté se confonde avec sa volonté, que mon esprit soit un avec son esprit, et que je lui amène mes pensées captives. Que toutes mes pensées soient amenées captives à l'obéissance de Christ, comme c'est écrit. Et c'est écrit, il est écrit, je continue. Alors, quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais il voit sa propre robe de justice qui est l'obéissance parfaite à la loi de Jéhovah. Voilà en quoi consiste notre préparation pratique et tangible pour la fin imminente de toute chose. Parce que il est écrit dans encore parabole de Jésus, à la page 277, paragraphe 2. Un second temps de grâce ne sera pas accordé aux hommes pour se préparer à l'éternité. C'est dans cette vie qu'il faut revêtir la robe de justice de Christ. Donc ce n'est pas après que nous soyons ravis dans les cieux avec tous les rachetés que Jésus va nous revêtir de sa justice de Christ, non. Non, rien de tout cela. Lorsque nous sommes finalement ravis, nous serons glorifiés. Mais c'est dans cette vie qu'il faut revêtir la robe de la justice de Christ pendant ce temps de grâce. Et il n'y aura pas de second temps de grâce. Nul purgatoire dans la parole de Dieu. L'occasion actuelle est la seule que nous ayons pour former des caractères qui nous donneront accès à la demeure préparée par Jésus pour ceux qui gardent ses commandements. Le temps de grâce est sur le point de s'achever, comme nous l'avons vu. Le temps de grâce est sur le point de s'achever, la fin est proche. Rappelez-vous, elle disait cela en son temps. La fin est proche. C'est à nous qu'est donné cet avertissement. Elle cite Luc chapitre 21, verset 34. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Ne vous laissez pas surprendre. Prenez garde de peur que vous soyez trouvés au banquet du roi sans l'habit de noces. Le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Elle vient de citer Matthieu 24, 44 et notre lecture biblique, Apocalypse 16, verset 15. Qu'est-ce qu'on nous dit donc? C'est à nous qu'est donné cet avertissement. Prenez donc garde à vous-même, de peur que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Prenez garde de peur que vous soyez trouvés au banquet du roi sans l'habit de noces. Voilà l'avertissement du Seigneur Jésus aujourd'hui pour nous, en rapport direct avec les scènes finales qui sont en train de se produire sur la terre, alors que nous approchons de la fin de toutes choses. Et vous aurez remarqué que le Seigneur ne nous a pas laissé sans compassion et sans miséricorde pour inviter notre amour. Et donc, nous voulons nous rappeler et ne pas oublier que notre préparation pour la fin, elle consiste non pas à tressaillir de peur ou d'excitation en vue des événements qui se produisent sous nos yeux, mais notre préparation pour la fin, elle consiste à nous soumettre à Christ, à soumettre nos cœurs à Christ pour que notre cœur soit uni au sien et que notre volonté soit mêlée, se confonde à sa volonté, que nos pensées, notre esprit deviennent un avec son esprit et que nos pensées lui soient amenées captives et que nous vivions sa vie. C'est ça l'activité pratique dans laquelle le Seigneur veut maintenant nous plonger et dans laquelle il nous invite et nous exhorte à nous engager de manière concrète pour que à chaque fois que nous faisons face à ces épreuves de la vie quotidienne, on puisse se souvenir de ces aspects concrets et nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Nous revêtir de son caractère irréprochable, la justice de Christ, nous revêtir de sa justice, nous dépouiller du vieil homme avec notre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Donc puisse le Seigneur nous bénir abondamment dans notre mémoire. Et puisse Dieu accorder son esprit pour nous aider à nous souvenir de ces choses et les mettre en pratique. C'est ma prière. Amen.